Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la France en état d'urgence sanitaire alors que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 double désormais tous les jours avec plus de 900 personnes actuellement en réanimation. Le risque de saturation des services est réel. Témoignage de soignants dès le début du journal et après vos autres titres, Agnès.
Les autorités reconnaissent des difficultés logistiques dans la livraison des masques. 25 millions devraient être livrés dans les heures qui viennent. Ma vie de confiné avec le témoignage ce matin de Simone, 89 ans, la voix de la sagesse, et le quotidien de plus en plus dur des détenus privés de parloirs et d'ateliers, témoignage rare sur France Inter. Nous irons en Grande-Bretagne où les écoles vont fermer à la fin de la semaine. Et puis la disparition de Patrick Lelay, grand artisan du succès de TF1 et vendeur assumé de tant de cerveaux disponibles.
Et les invités de France Inter ce matin à 7h50, Léa.
La famille et le couple à l'heure du confinement. Comment parler aux enfants? Comment vivre ensemble? Comment se respecter? Comment se supporter?
Ben
beaucoup
oui.
De questions aux psychiatres et psychanalystes responsables de l'unité de thérapie familiale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Serge Effet sera avec nous à 7h50.
Et à 8h20, Léa, dans le grand entretien de la matinale, nous recevons aujourd'hui le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Le standard est ouvert, vous le savez, 01 45 24 7000. On attend vos questions et vos réactions.
France Inter. C'est l'hôpital au cœur de la crise, l'hôpital de Mulhouse dans le Haut-Rhin, confronté depuis 2 semaines au cas de Covid-19 après un rassemblement évangélique dans la région. 200 malades sont hospitalisés, la réanimation est saturée. 6 patients ont été transférés hier par avion militaire vers d'autres établissements, d'autres pourraient l'être prochainement, car les équipes soignantes sont débordées, fatiguées, malades aussi, avec au moins 24 cas de Covid-19. Rémi Brancato a pu joindre une infirmière du service de médecine interne, surprise et touchée par l'ampleur de la catastrophe.
Ce sont des soins de catastrophe que décrit celle qui se fait appeler Marie. L'infirmière avait, dit-elle, minimisé la gravité de la situation quand les 9 premiers patients sont arrivés le 4 mars.
On ne s'attendait pas effectivement à voir des patients qui pouvaient décompenser à n'importe quel moment. Une patiente qu'on voit le dimanche qui se porte très bien, on revient le mardi, elle est où? Elle est en réa ou elle est décédée. On n'est jamais préparé en fait au décès des patients et aux patients comme ça qui peuvent décompenser en une nuit. On n'est jamais préparé à ça.
Les malades ont de 40 à 70 ans. Ils sont de plus en plus jeunes, selon elle. Depuis 15 jours, par protection, il faut passer des portiques, porter masque, gants, charlotte et sur lunettes. Chaque geste est rendu plus difficile alors que les soins s'intensifient.
On va travailler avec la boule au ventre. Il y a une part d'angoisse, un épuisement aussi. Et ça fait que 2 semaines et on nous dit que c'est que le début. C'est vraiment dur.
Les renforts d'autres services mettent du baume au cœur, mais la crise a aussi envahi la vie privée.
On vit Covid, on pense qu'à ça. Jusqu'à présent, quand on enlevait la blouse, on rentrait à la maison sereinement. Là, personnellement, je rentre à la maison, je pense à mes patients. On se pose la question de savoir s'il y aura assez de lits pour accueillir tous les patients. On ne pense pas à soi, en fait. On pense aux patients, avant tout.
Seul point positif, la solidarité entre collègues plus forte que jamais. Pour le monde extérieur, Marie n'a qu'un message, ne sortez pas.
Et pour soutenir les équipes soignantes, une aide psychologique se met en place par téléphone ou lors de rendez-vous individuels, un système déjà expérimenté après les attentats ou après les catastrophes naturelles. Des soignants qui s'inquiètent aussi du manque de masques. Les autorités ont d'ailleurs reconnu hier des difficultés logistiques et dénoncé des vols inadmissibles dans les hôpitaux avec du matériel qui se retrouve en vente sur Internet à des prix fous. Mais la situation est en train de rentrer dans l'ordre, a déclaré hier soir le directeur général de la santé, Jérôme Salomon.
Il y a une tension, il n'y a pas une pénurie, on est très attentif, comme je vous le disais, à déstocker en priorité le stock stratégique de masques vers les zones les plus touchées, et il y a effectivement des circuits un petit peu complexes qui ont dû se mettre en place mais qui maintenant sont efficaces. Il y a la livraison en cours de 4 millions de masques militaires, il y a cette livraison en cours de près de 25 millions de masques destinés à la fois aux officines et aux centres hospitaliers. Il y a aussi les commandes que nous avons passées aux entreprises qui sont sur le territoire français. Et puis, il y a des commandes qu'on a fait aussi à l'international. Donc, il y a une période de tension et de mise en place de ce circuit de délivrance. Il y a aussi à comprendre la doctrine d'utilisation des masques, priorité aux soignants. Quand on voit des masques P2 et des masques P3 dans la rue, pour des personnes qui font du vélo, c'est vraiment le cœur serré que les soignants nous le disent, et ils ont raison. Donc, là encore, télémédecine, téléconsultation, bon usage du masque, c'est un bien précieux. Nous sommes évidemment très attentifs à ce point majeur pour la prise en charge des patients et évidemment pour la protection des soignants.
Jérôme Salomon avec Sophie Bécherel, et ajoutons que la Chine va également envoyer 1 million de masques à la France. Et c'est justement pour répondre aux besoins immédiats et procéder à des réquisitions que le gouvernement a décrété hier l'état d'urgence sanitaire. Présenté en Conseil des ministres hier, le texte doit être débattu aujourd'hui à l'Assemblée nationale lors d'une séance extraordinaire où seront respectées les règles sanitaires. 3 députés seulement présents par groupe. Il faut dire que 18 élus ont été contaminés par le Covid-19. Les oppositions proposeront des amendements, mais ont prévu de voter ces textes. Damien Hamad est le président du groupe LR et député de l'Ain.
Dans cette période de crise sanitaire, il est important que la vie démocratique continue. Il est surtout important qu'on puisse voter des mesures d'urgence parce que les entreprises, les salariés, les artisans, les commerçants, les indépendants, ils attendent ça de nous pour le chômage partiel, pour un fonds d'indemnisation. Et c'est pour ça qu'on sera réunis à l'Assemblée nationale. Mais je crois effectivement avec un sentiment particulier parce qu'on sera peu nombreux dans des circonstances exceptionnelles et il faudra être simplement à la hauteur de ces enjeux.
Une assemblée qui est presque un foyer de l'épidémie aujourd'hui.
Oui, ce qui montre que personne n'est à l'abri. Et si ça avait été une institution autre qu'une institution démocratique, certainement que les portes seraient totalement fermées.
Damien Hamad avec Yaël Gauz. Damien Hamad évoquait un instant le soutien nécessaire aux entreprises. La BCE, la Banque Centrale Européenne, a lancé hier soir un plan d'urgence colossal. 750 milliards d'euros destinés à des rachats de dettes publiques et privées pour tenter de contenir les répercussions sur l'économie. Une annonce qui semble rassurer les marchés financiers. La bourse de Tokyo a ouvert en hausse ce matin. Hier soir, le Dow Jones s'est clôturé en baisse de 6% comme le CAC 40. New York qui s'apprête d'ailleurs à fermer provisoirement ses salles de marché à New York.
Il est 7h07, Agnès. La France au 3e jour de confinement.
Avec des tensions de plus en plus fortes dans les prisons où le confinement signifie la fin des parloirs et de toutes les activités avec intervenants extérieurs. Fin également des permissions de sortie pour les détenus qui avaient droit. Charlotte Piré a pu exceptionnellement recueillir des témoignages de détenus.
Ils sont détenus à Fleury, Villepinte, Fresnes ou Châteauroux et ils racontent la prison désormais sans parloir, ni aucun contact avec l'extérieur d'ailleurs, toutes les activités socioculturelles ou d'enseignement ayant été supprimées. En compensation, la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, par exemple, a augmenté le nombre de promenades pour les détenus, mais la situation reste très difficile à supporter pour Hakim, que nous avons joint dans sa cellule.
Franchement, aller au parloir, c'est un réconfort quand même. On voit sa famille, on prend des nouvelles, tout ça. Et là, j'ai plus le droit de voir ma femme, mes enfants. C'est très, très dur.
Détenu à Villepinte depuis un peu moins d'un an, Karim, lui, a clairement senti la tension monter d'un cran.
Depuis que le coronavirus s'est manifesté en France, il sépare pas les nouveaux arrivés des anciens, quoi. Ça nous inquiète, on est tous en tension. Ça, plus les parloirs, là, ça va vraiment basculer dans une petite guerre à l'intérieur de la prison. Il y a eu déjà des tensions, il y a eu des gens qui criaient aux portes, il y en a qui sont 4 en cellule au lieu d'être 2, et 80% des détenus font rentrer leur cannabis au parloir. Ça va, là, par rapport à ça, ça va vraiment, vraiment chauffer, je pense.
Karim, qui se dit d'autant plus inquiet que sa sœur a été contaminée par le coronavirus, la sensation d'isolement n'en est que plus grande.
Dans les rues ou sur les plages, les contrôles ont été nombreux hier avec plus de 4000 contraventions dressées. Quelques lieux posent encore problème, les marchés où les distances de sécurité ne sont pas respectées, les calanques à Marseille ou la promenade des Anglais à Nice encore trop fréquentées. En Haute-Savoie, toutes les activités de montagne sont interdites pour éviter les accidents alors que les services de secours sont mobilisés ailleurs. Un message bien passé auprès de Simone, une paloise de 89 ans qui habite au 4e étage d'un immeuble où la solidarité s'organise. Simone qui garde sa bonne humeur malgré la situation.
On est à peu près tous les retraités dans l'immeuble. On avait l'habitude de discuter, de rigoler même. Mais maintenant, je sais qu'il ne faut plus le faire. Hein. Peut-être que ça va les vexer. Ma voisine, elle m'a demandé si j'avais des courses à faire. J'ai dit non, je n'ai pas besoin de courses. Quand on me livre les repas, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai trouvé ça gentil. Il y a une chose que j'étais étonnée. Hier, je voulais des œufs dans l'épicier qui est en face. Oh là là, toutes les étagères étaient vides. C'est pas raisonnable. Et alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai fait une attestation comme quoi je me déplace pour aller à l'épicerie ou alors aller à la boîte aux lettres. Je l'ai mis dans une enveloppe et je vais le mettre dans mon sac. Si je suis interpellée par la police, je pourrais montrer que j'habite dans le quartier. métier.
Simone, la voix de la sagesse, témoignage recueilli par Suzanne Chaudjaï de France Bleu Béarn.
Il est 7h10 et dans le monde, ce sont 500 millions de personnes qui vivent désormais confinées.
Les dernières mesures ont été prises en Bolivie et au Panama avec un couvre-feu tous les soirs. Le Portugal devrait annoncer dans la journée des restrictions de circulation. Et en Grande-Bretagne, Antoine Gignot, les écoles vont fermer à la fin de la semaine.
Tous les examens sont annulés. Les derniers cours, explique Boris Johnson, auront lieu vendredi après-midi. Ensuite, seuls les parents dont le travail est essentiel pour lutter contre l'épidémie pourront y envoyer leurs enfants, précise le Premier ministre. Elles resteront fermées pour la plupart des gens jusqu'à nouvel ordre. Mais nous avons aussi besoin que ceux qui font partie du personnel de santé et qui sont aussi des parents puissent continuer à travailler. Et nous avons besoin de policiers, de livreurs, de supermarchés, de chauffeurs, d'aide à la personne. Il faut donc que les écoles soient disponibles pour ces travailleurs clés qui, autrement, seraient obligés de rester à la maison. En parallèle, les députés s'apprêtent à valider un texte pour donner des pouvoirs renforcés au gouvernement et à la police qui pourra notamment arrêter et isoler des malades. Le ministère de l'Intérieur pourra aussi bloquer le trafic dans les ports s'il n'y a pas assez de personnel pour assurer la sécurité des frontières. Quant au confinement total et forcé, nous n'avons pas tendance à imposer ce genre de restrictions, lance Boris Johnson. Nous sommes dans un pays de liberté, mais, dit-il, ce n'est pas un scénario totalement écarté. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Et pour aider les parents désormais chargés de superviser les devoirs à la maison, France Télévisions va proposer à partir de la semaine prochaine des programmes spéciaux sur France 4 avec des cours dispensés par des enseignants de l'éducation nationale. France 2 va également proposer tous les après-midi un classique du cinéma français. Ça va commencer lundi avec Jean de Florette, suivi mardi de Manon des Sources. La télévision française qui a perdu hier l'un de ses dirigeants emblématiques, Patrick Lelay, ancien patron de TF1, il s'est éteint à l'âge de 77 ans. Retour sur la carrière d'un Breton que rien ne prédestinait à une telle réussite dans les médias. Alexandra Hacoun.
Sa carrière, Patrick Lelay, la débute comme ingénieur des travaux publics pour différents groupes de construction avant d'entrer chez Bouygues en 1980. En charge de la diversification du groupe, le voilà qui hérite du dossier de candidature pour la privatisation de TF1 en 1987. Un an plus tard, il prend la tête de la chaîne. Avec lui, Étienne Moujotte, TF1 devient vite la plus regardée d'Europe, jusqu'à 40% de parts de marché. Une superpuissance qui se moque qu'on la traite de télépoubelle, dotée d'un président qui semble prêt à tout pour faire de l'audience, les Guignols en 2001.
L'objectif de Nice People est de démontrer que les peuples de toute l'Europe peuvent vivre ensemble. Nous voulons rapprocher les Européens.
Voilà, qui se rapproche? Très près, tout près. Même dedans, si c'est possible.
Non, non, Patrick, faut pas que ça dérape.
Ben quoi, faut pas bouder son plaisir.
En 2004, la petite phrase sur le temps de cerveau disponible que TF1 vend à Coca-Cola est une catastrophe en termes d'image. Pourtant, le Breton assumera toujours, comme il l'assumera en 2002, face à Patrick Cohen sur France 5, d'avoir raté le coche de la TNT, jugeant le concept ringard.
Je maintiens.
La TNT, c'est ringard.
C'est TNT, c'est ringard. Non, j'étais pas contre. Le problème, si vous voulez, puisque l'État français est un État dirigiste, vous savez, en matière de télévision. Même la Corée du Nord rêvait d'avoir notre système, si vous n'osez pas le mettre en place.
Un homme au style bien personnel qui, jusqu'à son départ de TF1 en 2010, fut aussi craint que respecter.
Retour enfin sur cette belle initiative en temps de coronavirus. Peut-être avez-vous entendu hier soir à 20h des applaudissements, des sifflets dans votre rue. Un hommage sonore au personnel soignant en première ligne dans la lutte contre le Covid-19. C'était hier soir à Mulhouse, Laval, Antibes, Rennes, Strasbourg ou encore à Paris. Emmanuel Grabet était en compagnie de Delphine, une habitante du 18e arrondissement.
Le but, c'est de montrer qu'on est chez nous, donc qu'on respecte le confinement, montrer que la vie s'arrête pas, qu'on est là. Tout le monde au balcon à 20h pour applaudir le personnel hospitalier. Vous allez voir, ça va commencer. Et depuis, effectivement, ça s'étend à tous ceux qui travaillent dans cette période difficile, donc les éboueurs, les caissières, les gens de la poste. Toutes les personnes qui n'ont pas le choix, finalement, que d'être là pour nous.
Et rendez-vous ce soir à 20h. Merci à eux.
Et merci à vous, Agnès Soubiran.